ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud et la voix du magazine. Aujourd'hui, une émission consacrée au programme de la rentrée libertaire. Attention, jeu de mots, qui aura lieu du 7 au 11 septembre au Chat Noir. Programme proposé par la BAF, l'UCL et le groupe Libertad. Aujourd'hui, avec nous dans les studios pour nous en parler, je reçois Akalai et Rob. Bonjour.
Salut.
Ouais, bonjour.
Salut.
Ouais, vous allez bien?
Ouais.
Super. Donc en préambule, est-ce que vous pouvez nous parler des différents collectifs qui vont organiser cette manifestation et puis également nous parler de ce lieu, le Chat Noir?
Carrément. Du coup, la rentrée libertaire, donc elle a commencé hier. Mmh. Et les différents collectifs qui font partie du local au Chat Noir et qui organisent, qui participent à la rentrée libertaire. Tu les as déjà nommés, donc ouais. On a la BAF, la Bibliothèque Anarcha Féministe de Toulouse,
okay.
Donc groupe voilà, qui organise une bibliothèque, petite librairie dans le local, avec des permanences les mercredis après-midi de 16h à 20h et les dimanches après-midi de 14h à 18h.
Et ils tiennent les permanences,
tout à fait.
Maximum respect.
Oui, après il y a les permanences, mais rien n'empêche quand le local est ouvert certaines fois en fait de venir de manière autogérée choper des bouquins. Mm-hmm. Voilà, il y a un petit livret où on s'inscrit, on marque le bouquin qu'on prend et tout est autogéré et c'est magnifique.
Absolument. Et même en plus de tenir les permanences tout le temps, cet été, elles ont même fait ouais. Des permanences supplémentaires le vendredi pendant l'été.
Ça n'a pas fermé pendant l'été. Exploit.
C'est clair que pour le militantisme, c'est un exploit, ouais.
L'été ne nous arrêtera pas.
Voilà pour la BAF. Ensuite, il y a également l'UCL qui participe. Donc l'UCL, c'est l'Union communiste libertaire. Donc en l'occurrence, le groupe de Toulouse et alentour, qui fait partie des membres du Chat Noir. Et qui ont organisé une discussion autour d'un bouquin et avec l'auteur du bouquin. On en parlera tout à l'heure.
C'est ça. Et enfin, le groupe Libertad, dont Rob et moi faisons partie. Voilà, groupe Libertad qui est affilié à la Fédération anarchiste. Et alors, on n'a pas de permanence. Mais en tout cas, en rendez-vous, on va dire mensuel, on a un ciné-club par mois au local, okay. Auquel vous pouvez nous rencontrer, en plus des autres activités qu'on peut proposer aux alentours.
Super. Vous avez quasiment un site internet.
Oui,
quasiment.
Que vous construisez lentement, certes.
C'est
mais...
ça, on achète les matières premières, c'est un peu rare en ce moment. Alors.
Donc vous en avez parlé, vous êtes un groupe délocalisé de la FA. Et, alors déjà, c'est à vous de trouver le nom, en fait, je suppose.
C'est ça.
Pourquoi avoir choisi Libertad et pas le nom d'un ou une anarchiste
Eh bien, c'est le nom d'un anarchiste, justement.
Ah, bien, oui, je savais pas.
C'est okay. Pas mal, hein, c'est qu'il y a quand même un sacré jeu de mots entre Libertad, liberté, et Libertad, qui est le nom d'un anarchiste dont Rob peut parler, peut-être.
Voilà, un petit peu, c'est... Aussi référence à Albert Libertad, donc, okay. Qui était un anarchiste qui a vécu fin du 19e et début du 20e siècle, qui a écrit beaucoup dans des journaux et qui était connu, qui a aussi lancé des causeries populaires, donc un peu des précurseurs des universités populaires qu'il y a maintenant. Mm-hmm. Et qui était notamment connu pour... Il était en situation de handicap, il avait des béquilles, mais ça ne l'empêchait pas du tout de participer à des débats musclés physiquement, et y compris en manif. Voilà, donc il était assez...
C'était un Français ou...
Ouais, okay. C'est ça.
Et là, tu as utilisé volontairement le terme de causerie populaire, ça mmh. revient en fait sur la fiche. Vous voulez un petit peu développer cette idée, cette notion ?
Ouais, je pense que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on veut pas non plus qu'il y ait une élite qui vienne informer, en fait, on va dire une base qui serait moins instruite. Et justement, la causerie, c'est vraiment l'idée de partage, en fait, l'idée de discussion, l'idée de pas spécialement être sur une estrade de manière magistrale et d'avoir aussi d'une forme physique, par exemple autour du cercle et avec des discussions sur lesquelles tout le monde, toutes et toutes, on peut rebondir en fait. Et pour nous, c'est assez important en fait, je pense, de casser aussi cette hiérarchie en fait dans l'instruction.
Et puis le populaire aussi,
de
ramener du populaire au populaire.
C'est ça, exactement, le peuple au peuple.
Donc là, vous m'avez un peu piégé quand même avec Libertad. Donc c'est à moi de vous piéger, parce que en fait souvent je mets en place des blind tests. Mm-hmm. Alors l'idée au début c'était de faire briller en fait les invités. Je me suis aperçu que tout le monde se plante au blind test. La preuve, mardi dernier, Jérôme, j'ai fait un blind test, avec des acteurs, des seconds rôles, et je sais pas, il a été nul. Désolé, hein, je crois que c'est clair.
On s'est entraîné cet été un petit peu au blind test, heureusement.
Donc le blind test, ça va être de retrouver le nom d'anarchiste. Célèbre.
Ouh là là.
L'idée, c'est d'écouter aussi un peu de musique et puis de parler d'anarchisme.
Oh là, la catastrophe.
Mercator, raconte-nous une histoire, même deux histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout.
Père Castor, raconte-nous une histoire.
C'est cadeau le dernier.
Ouais, bah heureusement. Hein.
Ouais. Heureusement.
Bon, j'avoue, c'était pas facile quoi. Bon, vous en, à part Père Castor, vous avez.
Ouais, Père Castor, c'est un super anard.
Ouais.
Ouais.
Il apparaît même sur vos affiches.
Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'on aime les histoires.
C'est dommage parce que moi, comme rime, j'avais Père Pénard. Père Pénard, raconte-moi une histoire.
Oui, aussi.
Ça,
oui.
Ça fonctionnait bien.
Ouais. Oui, ça marche aussi. Ouais. C'est vrai.
Donc vous avez le dernier, je suppose.
Ouais, bah on a du coup. On a cru reconnaître Brigada Flores
ouais,
Magón.
Ouais, la Flores Magón.
Ouais. Qui...
Bon, ben, j'allais les saluer, je sais pas trop. Ouais, moi, en tout cas, non, mais. Je salue Flores Magón, en tout cas.
Complètement.
Tout à fait.
Et alors, au tout début, ouais, voilà, c'était vraiment pas facile, j'avoue. Vous avez retrouvé d'autres groupes ?
Moi, je dirais qu'il y avait une femme au milieu, donc du coup, je vais donner des noms d'anarchistes de femmes, j'en sais rien.
Ah, dommage.
Ça marche pas.
Ouais, non, ça marche pas.
Ça marche pas, merde.
C'est dommage. Donc, au tout début, on avait Königstein News, François Claudius Königstein dit.
Ravachol.
Ah, bah oui, bah forcément.
Et voilà, et Ravachol, c'était le deuxième groupe, un groupe émo anglais, maximum respect. Et après, on a enchaîné avec Bakounine, voilà, toujours dans le cross-grind, merci okay. Bakounine, et puis nos amis de la Brigada Flores Magón.
Pardon.
Vous notez pour...
Oui, on note quand même parce qu'on est sérieux. Mais alors attends, moi je remarque quand même que t'as pas une seule femme dans les anarchistes là.
C'est nul.
Ouais, je suis désolé.
Tu sais quoi, non mais t'as grave raison, quand tu l'as dit, je me suis dit ouais, exact, bim, c'est nul.
Carrément. Ouais, mais je pense qu'il doit y avoir bien un groupe qui va s'appeler, il y a les Marées Raides.
Ah yes.
Eh ben ouais.
De rap.
Bah oui.
Ah,
aussi,
bien joué, ouais.
Ouais,
trop bien. Calavera et tout ça. Donc, l'AFA, oui, vous expliquez que c'était vous qui aviez décidé en fait de votre nom.
Ouais.
En regardant sur le site de l'AFA, je me suis aperçu de quelque chose. Bon, il y a un long texte qui explique un petit peu que l'anarchisme, c'est une idéologie, bah, je ne sais pas si on peut dire une pensée, ouais. En tout cas, pensée politique en mouvement. Et j'ai trouvé ça super intéressant, justement, pour revenir justement au nom un peu emblématique de l'anarchie, où ils n'hésitent pas, par exemple, à expliquer que, oui, Proudhon a eu des propos antisémites, misogynes.
Complètement.
L'AFA fait son autocritique, mais vraiment justement pour cette idée de mouvement, de pensée qui n'est pas figée et qui est en construction, en expérimentation.
Mais d'ailleurs, moi, je rajoutais justement pour en venir à l'AFA, c'est une fédération, donc en fait, il y a différents anarchismes aussi. Il n'y a pas qu'un seul anarchisme, mais justement, effectivement, il y a une évolution dans le sang qui se fait parce que bah, les années passent et forcément, voilà, l'évolution, elle se fait. Mais il y a différentes pensées. C'est-à-dire, on n'est pas toutes et toutes d'accord au sein de l'AFA sur certaines questions. Et je pense que c'est ça qui fait la diversité aussi et qui est intéressant. Et le fait de fédérer en fait tout ça, c'est aussi que malgré en fait nos divergences, on a des intérêts communs en fait, autour desquels on se rassemble.
Ouais, carrément. Et c'est aussi pour mettre un autre mot sur ce que tu disais, la pensée qui n'est pas figée, c'est, je pense, une des forces et une des spécificités de l'anarchisme comme courant de pensée politique, c'est que ce n'est pas dogmatique. Donc ça complémente ce qu'on disait, c'est pas, voilà, il y a nous, les anarchistes professionnels de l'AFA, on sait comment faire la bonne manière d'être anarchiste. Non, pas du tout, et donc on réfléchit, on évolue constamment, et on n'hésite pas à pointer ce qui est aujourd'hui problématique dans ce que les premiers, malheureusement.
Ouais. Mais l'autocritique, c'est pour, en tout cas pour moi, là, vraiment perso, c'est quelque chose de très important. Tu vois, c'est quelque chose qui se fait énormément dans les communautés zapatistes, par exemple. Et je trouve ça super intéressant, en fait. Parce que c'est par l'autocritique, en fait, qu'on évolue et qu'on avance, en fait. Et justement, qu'on reste pas dans une forme d'élite éclairée qu'on pourrait retrouver dans d'autres mouvements politiques dont je ne citerai pas le nom. Mais voilà, c'est ça aussi qui est, je pense, important pour... pour pas rester dans ce dogmatisme, et pas être dans un dogmatisme, justement.
Ouais, c'est vraiment la pensée horizontale.
Oui.
Et pour continuer sur l'AFA, voilà, petit souvenir personnel, avant de conclure ou pas sur l'AFA, c'est vrai que dans les années 90, moi je suis banlieusard, et j'ai vécu à Paris pendant pas mal de temps, dans l'11e, à Belleville, pas très loin de Publico, justement. Et okay. C'est une époque où le végétalisme, c'était absolument mal vu par l'AFA. J'ai un ami qui participait à cette époque sur Radio Libertaire à l'émission sur les objecteurs de conscience, sur le pacifisme. Mm-hmm. Et on lui refusait, en fait, de faire certaines rubriques liées à l'antispécisme.
Mm. C'est vrai.
C'était super violent. Et heureusement, le temps a changé. Et évidemment, les idées antispécistes et de libération animale sont un petit peu plus présentes, heureusement. Dans les courants anarchistes actuels. Mais une nouvelle fois, c'est ce que tu disais à Calaï, c'est important aussi de réfléchir à ses propres dogmes, quoi, pour en sortir et évoluer, et savoir évoluer avec son temps, son époque, et rendre visibles toutes les luttes.
Ouais, complètement. Après, voilà, comme on disait encore juste avant, il y a encore des divergences qui sont très fortes sur certains sujets à l'AFA. Ah, okay. Franchement, on ne va pas s'en cacher. et il y a encore, on est des humains, hein, donc forcément, il y a encore des égos aussi qui malheureusement peuvent prendre le dessus, et il y a encore des débats musclés en fait au sein de l'AFA.
Musclés seulement verbalement.
Ouais, verbalement, pas coup de.
Un coup de béquille.
Ouais, coup de béquille comme Libertad. Ouais, non, pas encore. Mais non, verbalement, et c'est déjà bien assez suffisant, à mon goût en tout cas. Mais ouais. Et voilà, effectivement, il y a des sujets, je pense, qui sont ultra... alors, effectivement, sur tout ce qui est véganisme, tout ça, l'antispécisme, ça touche certaines choses, mais je pense que pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est quand même dû aussi à une évolution, en fait, effectivement, de la conscience. Après, il y a d'autres sujets qui touchent vraiment des choses qui sont peut-être plus profondes, comme la prostitution et ce genre de choses. Ah, et, ouais. Et là, effectivement, là,
il y a... Pour un abolitionnisme, c'est ça
Ouais, ou pas, du coup. Ou pro-sexe.
Ouais, ouais, bien voilà. sûr.
Effectivement. Mais voilà, moi, je n'ai pas envie spécialement de cacher que ça existe encore. Et en même temps, c'est pas plus mal, parce que ça prouve bien qu'il n'y a pas une pensée unique, quoi.
Mais tu, toi, tu le vois comme genre des résistances, également des résistances idéologiques
Alors.
Ou générationnelles, soyons francs.
Ouais, alors là, par contre, moi, j'ai un avis ultra tranché, et c'est ultra perso, et ça, je tiens vraiment à le préciser. Moi, je vois ça comme quelque chose d'ultra générationnel. Ouais. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas, dans mon quotidien aussi, de connaître des personnes qui ont à peu près mon âge, et ça ne sera pas générationnel, qui vont penser justement ces choses-là, quoi. Moi, je pense qu'il y a un truc générationnel qui se fait, effectivement. D'une certaine manière, mais pas que. Mais pas que.
Ouais, complètement. C'est seulement un facteur, le côté générationnel. Et je voulais rajouter un truc par rapport au fait que, bah, voilà, sur certains sujets, il y a des divergences au sein de l'AFA. C'est normal et c'est même sain, en fait. Parce qu'un truc qui est important pour nous, dans notre vision de l'anarchisme au groupe Libertad, c'est de mettre en cohérence notre projet de société et comment on fonctionne maintenant. Et du coup, donc, notre projet de société, bah, c'est que la société fonctionne sur un mode anarchisme, autogestion, entraide, égalité, liberté, ce genre de choses. Et du coup, il faut commencer à fonctionner dès aujourd'hui comme ça. Et dans une société anarchiste, on ne sera pas tous et toutes d'accord, on ne sera pas tous et toutes anarchistes dans cette société, et ça doit pouvoir être possible de ne pas être anarchiste dans cette société. Et donc, dès aujourd'hui, il faut apprendre à fonctionner ensemble et du coup, acter qu'on ne sera pas toujours tous et toutes d'accord et qu'il y aura des désaccords.
Sinon, c'est flippant.
Non, le débat vaut toujours mieux que le vote.
Ça... Après, je l'ai convaincu, là, quand même.
Bon, ben, on peut peut-être s'écouter de la musique avant de parler du programme. Je vous ai demandé de constituer une playlist voilà, d'ambiance musicale ou de groupe qui vous représentait. Et sans hésiter, mais vraiment sans hésiter, cette nuit à 3h du matin, j'ai reçu la playlist.
J'ai envoyé un peu avant quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait passer? Alors, je sais pas.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Le premier, hein.
Ah, vas-y.
Oh, allez, on part sur le Deba Mix. On a essayé de faire un truc un petit peu éclectique au niveau des musiques aussi.
Trop bien. Tu veux parler un peu? Bon, là, c'est le texte qui est quand même particulièrement.
Sur le zapatisme, ouais.
Le zapatisme. Alors, c'est Rob. Représente vraiment.
Ouais. C'est Rob que moi je dénonce, quand je
Ah, j'assume totalement.
Je suis né près de la Suisse, c'est pour ça. C'est Rob qui a choisi le morceau, mais le zapatisme, effectivement, c'est quelque chose qui, moi, me touche. J'en ai parlé juste avant, forcément, personnellement.
Voilà. Ça parle, enfin le titre du morceau c'est Cagoule Zapatiste, donc ça parle du zapatisme, mais plus largement en fait des mouvements de lutte écolo, et donc avec une approche libertaire particulièrement.
D'ailleurs, juste avant d'écouter le morceau, tu en as déjà parlé, et c'est vrai qu'on a le sentiment que, par exemple, le mouvement zapatiste c'est un symbole comme ça, un peu lointain en fait, on n'en parle plus, commandant Marcos il est moins dans l'actualité.
Et pourtant, en fait, ils sont venus à Toulouse la semaine l'année dernière. Hein.
C'est vrai. Exact,
ouais.
Exact, les apatistes, tout à fait. J'en ai croisé à la chapelle, d'ailleurs. Ouais. Mais comment faire de ce combat une actualité permanente? Parce qu'on est aussi soumis à des règles liées à l'information, tu vois. Là, c'est pas parce qu'on en parle plus que le problème n'existe plus.
C'est je fais un aparté parce que sur le nom du morceau qui s'appelle Cagoule des apatistes, en fait, si les apatistes portent des cagoules, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont décidé de le faire parce qu'ils se disaient que s'ils mettaient pas des passes à montagne, hein, comme on dit, des cagoules, en fait, sur la tête, personne n'allait les voir, ils allaient pas être médiatisés. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que la cagoule, en fait, fait qu'on les voit. Parce que du coup, ils sont vus comme un symbole terroriste, alors qu'en fait on s'aperçoit que l'idée elle est tout autre. Pour répondre à ta question du coup, dans un deuxième temps, après effectivement je pense que moi d'une certaine manière il faut clairement pas oublier certaines choses, on a tous et toutes des sensibilités différentes en fait au sein de nos intérêts de l'actualité militante. Mais il y a plein de moyens aussi de se renseigner et quelque part c'est aussi à chacun et chacune de faire le boulot. Mais c'est aussi pour ça qu'avec Libertad, dans notre ciné-club, on vise quelque chose et on essaye en tout cas qu'il n'y ait pas quelque chose uniquement européocentré en fait au niveau des luttes et de diversifier en fait les choses pour qu'on puisse continuer à parler de certaines choses, voire revenir sur des choses qui se sont déjà passées et pas être que dans l'actualité. En tout cas, il y a tout un mix par rapport à tout ça. Voilà.
Donc on parlait de Flores Magón, c'est vraiment l'internationalisme.
C'est ça.
Par la preuve. Donc on s'écoute le morceau.
Allez.
Allez, go.
Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travail.
Partout je le vois que la nature agonise, les politiciens disent qu'ils trouvent ça horrible, donc ils prennent la pose aux côtés du Cassicraoni, puis signent les contrats qui vont raser l'Amazonie. Dans les médias, le journaliste sceptique, face à l'évidence du bordel climatique, quand la quantité de nos déchets plastiques forme un nouveau continent dans l'océan Pacifique. La nature se pollue, mais faut voir ce qu'on y jette. L'obsolescence est programmée, les métaux rares sont pillés. À 23 ans après, ils s'entassent dans des décharges au Niger. Ils ont privatisé l'eau, ils privatisent les terres. C'est Bayer, Monsanto, c'est Coca, c'est Nestlé. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste.
Résiste
comme les indigènes d'Équateur face à l'industrie pétrolière.
Résiste
comme les paysans du Sahel face à l'avancée du désert. Repoisons les forêts comme au Gary Mataille. Seul le fait de ne pas y croire fera contre bataille. Pour la victoire, il faut livrer bataille avec la détermination d'un guerrier Maasai. Monter des autonomies dans des politiques, leur attitude hautaine. Viens donc voir ce qui se passe, rien qu'au sud de la Haute-Vienne. Je ne vois de solution que dans la décroissance. L'autonomie, le boycott des actes et pas que d'ajacance. La problématique est globale, révolution mondiale. Cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout à cagoule zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire.
Ce sont les structures capitalistes orientées vers la logique du profit maximum et le plus rapidement possible qui sont à l'origine des dérèglements à la fois socio-écologiques que nous constatons aujourd'hui et à l'origine du fameux réchauffement climatique.
Pour se bouger pour maintenir que le rapport de force. Pour se bouger pour maintenir que le rapport de force. Plaquer le bloc. Pour se bouger pour maintenir.
Les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur.
Si tu trouves que j'ai des propos violents, c'est que t'es jamais sorti de manif le visage sanguinolent. Faut se bouger pour maintenir que le rapport de force. Plaquer le bloc, pluie de cocktails comme en Corse. Elle est pas loin l'époque où la France sabotait le Rainbow Warrior. Chez les frères écolo radicaux, rien que cette année c'est 164 morts.
Le drapeau de force.
voient la vie qu'ils éradiquent. Tout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Tout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire. Tout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Tout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire. Tout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Tout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste et libertaire.
Révolution sociale, écologiste et libertaire.
Ouais.
Super, tout un programme.
Carrément, ça rappelle la rentrée libertaire.
Et oui, et Élisée Reclus, si, s'il avait su. Alors là, justement, donc, la rentrée, pourquoi ? Parce que ça, l'écologie, en tout cas, fait partie des thèmes que vous allez évoquer, aborder et développer. Vous allez recevoir les auteurs-autrices de Greenwashing, à savoir Laure Tellière, Guillaume Carbou et Aurélien Berland, pour une première rencontre, qui ont fait une critique du greenwashing, mais beaucoup plus sur le discours hypocrite, euphémique, sur des objectifs qui sont impossibles, socialement impossibles. Ah mais là, mais je pensais lire en fait le programme, mais c'est ce que j'ai écrit en fait. Je me disais, c'est bien écrit, c'est moi qui l'ai écrit ça. Parce que comme le rappelle souvent Jean-Baptiste Fressoze, cela fait 50 ans qu'on parle de transition et les émissions en CO2 ne décroissent pas.
Alors déjà, en fait c'est tout un événement juste genre situ qui se passera le vendredi. Alors avant greenwashing, c'est les mêmes personnes, hein, mais il y aura la présentation du rapport du GIEC par les Técopoles. Donc ces personnes-là qui font partie de greenwashing font partie de la Técopole également.
La Técopole qui est l'atelier d'écologie politique. Donc okay, c'est ça. C'est un groupe, un regroupement de scientifiques, un regroupement pluridisciplinaire qui s'est créé à Toulouse en 2018 pour travailler sur tous les aspects liés au bouleversement écologique.
C'est ça. Donc il y aura donc cette présentation du rapport du GIEC par la Técopole. Ensuite, une causerie populaire autour de greenwashing. Et enfin, un événement organisé par l'UCL autour discussion autour d'un livre qui a été écrit par Antoine Dubio.
Dubio,
pardon. Faute d'orthographe sur mon truc.
Il porte bien son nom.
C'est ça. Et qui va parler d'écofascisme. Alors pourquoi on a choisi ça? Déjà, c'est assez, je ne sais pas si étonnant, mais je pense que c'est bien révélateur de ce qui se passe en ce moment. C'est quand même deux groupes différents, le groupe Libertal et le groupe UCL, sans concertation, se sont retrouvés sur ces idées-là. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur dans le groupe Libertal. On a essayé depuis des années de faire une causerie populaire autour de ça.
Depuis la création du groupe, mais ouais. La création du groupe ne remonte qu'à fin 2018.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est un peu notre sujet maudit, entre guillemets, parce que cette causerie populaire n'a jamais pu se faire à cause de confinements divers et variés. Donc enfin, on arrive à quelque chose.
Enfin, on arrive à faire des événements publics pour parler de tout ce qui est écologie. Parce que en fait, c'est un sujet fondamental pour pouvoir espérer arriver à n'importe quel changement social. Il faut composer avec les bouleversements écologiques et climatiques, et ça devient urgent.
Avec, comme dirait Didier Super, on va tous crever là. Pardon pour la citation. Mais c'est un peu ça. Ouais, là, je pense que c'est effectivement, tu le dis, le sujet en fait juste fondamental en ce moment. Enfin, on peut pas ignorer ce qui est en train de se passer, la planète. Enfin, vous voyez l'été qui vient de se frapper là. Je sais pas, mais c'est ça me paraît évident en tout cas que ça soit au devant de ce programme, quoi.
Ouais. Et puis voilà, là, tu mentionnais l'été qu'on vient de se taper où peut-être ça a permis à une partie des personnes ici en Europe, en France, qui étaient jusque-là favorisées, pas trop touchées directement par le bouleversement écologique, là de s'en rendre compte dans leur chair. Donc on peut, pour voir le bon côté des choses, espérons que l'été qu'on a vécu va pouvoir commencer un changement des mentalités et peut-être faire accepter un plus grand nombre de personnes les besoins de changements radicaux dans notre société, donc radicaux, le sens à la racine des problèmes, et du coup, le mode de production capitaliste.
Complètement. Je suis désolé, je fais une petite parenthèse avec des personnes qui ont été touchées dans leur chair. Ça m'a fait penser, moi, au gilet jaune et la répression policière.
Oui, complètement.
Ça n'a rien à voir, tout en ayant à voir, en fait. Mais on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Bon, je referme la parenthèse sur l'apprentissage du réel qui est violent et brutal. Et oui, est-ce que... Ce que soulignent les auteurs dans ce livre, et ce qui, on peut faire une analogie aussi avec l'anarchie, je trouve, c'est le changement passera par un changement de civilisation. On n'est plus sur des petites mesurettes. Comment enclencher ce mouvement vers un changement radical de civilisation ?
C'est une vaste question. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, ça nous paraît énorme parce que toute la société, en fait, est forgée là-dessus. Petit rappel historique, je pense qu'il est très simple, mais il n'est pas si vieux que ça. Au 19e siècle, quand il y a la révolution industrielle, c'est la révolution du capitalisme industriel. C'est là où tout se met en place, en fait. Et donc, toute la société, en fait, on appelle ça révolution et c'est pas pour rien, qui était là jusqu'à présent, se forge là-dessus. Mais en même temps, si on réfléchit, c'est pas si vieux que ça. Et je pense que juste se dire ça, ça peut déjà aider dans un certain sens à se dire qu'on peut y arriver. Parce que la première chose pour pouvoir le faire, c'est d'y croire. Ouais. Et ça, c'est juste fondamental. Et c'est ce que fait quand même vachement bien le libéralisme, plein de choses, c'est le fait qu'on essaye de ne pas y croire, justement, qu'on ne puisse pas y croire parce que ça nous paraît tellement énorme qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est la base, le concept de plein de choses entre guillemets fascistes, j'ai envie de dire fascisantes, sur le fait que bah, c'est tellement gros qu'on va se dire bah, on ne peut pas détruire le pouvoir. Quoi. Mais juste se dire qu'en fait, quelque part, de le voir d'une autre manière, se dire en fait, c'est pas si vieux que ça. Donc en fait, toutes les décennies d'avant, l'être humain, il a quand même existé. Donc ouais. En fait, on peut continuer à exister en faisant un changement. Voilà, juste déjà, premier pas pour moi, y croire.
C'est ça, le capitalisme est malheureusement très fort pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres modèles de société, alors qu'ils ont existé dans l'histoire. Hein. Il suffit de regarder les travaux d'anthropologues, par exemple, pour en citer des libertaires, Charles McDonald. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai un truc de mémoire. Voilà, donc il y a d'autres modèles de société qui ont existé dans l'histoire, et il y en a d'autres qui existent maintenant. On parlait avant la pause musicale des apatistes. Les apatistes, c'est complètement un autre modèle de société qui est bien plus en phase avec voilà, le vivant, et qui existe... Enfin voilà, c'est quand il y a eu l'insurrection des apatistes en 1994, voilà... C'est, on va dire, des révolutionnaires un peu classiques, marxistes, qui ont rencontré les populations indigènes et du coup qu'on fait évoluer leur pensée. Et du coup, les populations indigènes qui vivaient déjà d'une autre manière. Mais là, ça, depuis l'insurrection zapatiste, ils ont carrément mis en échec l'État mexicain. Et depuis tout ce temps, ils et elles survivent malgré les attaques constantes et même se développent. Donc on n'en entend pas beaucoup ou alors que périodiquement parler par ici, mais ils se développent. Il y a des nouveaux caracoles, donc un des niveaux d'organisation de la société zapatiste, des nouveaux caracoles qui se créent récemment. Donc en fait... Il y en a complètement des alternatives. Du coup, une fois qu'on a passé, enfin que je dis on, hein, mais les gens, le premier obstacle pour le changement, pour changer de société, c'est passer l'étape du déni, se faire rendre compte aux personnes qu'il faut changer, il n'y a pas le choix. Donc ça, on peut espérer que ça commence à aller bien, enfin que de plus en plus de monde vont sortir du déni. Et après, voilà, quand on a passé le déni, il faut... savoir, c'est ça, on essaie de faire connaître qu'il y a des alternatives, c'est possible.
C'est ça. Mais ce qui est difficile dans notre société, en Europe en fait, en Europe, en Occident, j'ai envie de dire, c'est tout le confort en fait, l'illusion en tout cas du confort qui a été amené en fait par la grande consommation, par tout ça, par le moment des Trente Glorieuses, etc., même avant. Et effectivement, la peur de perdre ce confort, en fait, c'est qu'une illusion. C'est-à-dire que le confort, il est créé, en fait, par, clairement, tout ce qui est, je perds mes mots, tout ce qui est industriel, etc. Mais en fait, ce confort n'est qu'une illusion. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un presse-agrumes électrique chez soi. En soi, la force du coude, par exemple, fonctionne très bien. Mais après, effectivement, il faut faire le tri dans tout ça et il faut peut-être se reconnecter à des choses qu'on a peut-être perdues en tant que société occidentale, en fait, que moi, j'ai retrouvé dans d'autres sociétés. Alors, on parlait des apatistes, mais il n'y a pas que en indigène. Je pense les Mapuche, il y en a plein, en fait, dans l'Amérique latine ou même à d'autres endroits, qui ont clairement un lien avec l'environnement et de se dire qu'en fait, l'être humain fait partie de l'environnement et pas penser comme Descartes qu'il faut justement, en fait... comment dominer la nature, peut-être que juste ça, en fait, ça serait peut-être pas plus mal, déjà.
Oui, parce qu'en plus, c'est vraiment une illusion bâtie sur des énergies fossiles. Tous les modèles que vous venez de citer sont très près de la nature.
Ouais.
Donc ça fait tout à fait référence au thème que vous allez aborder, qui est vraiment un thème central. Tu parlais aussi du déni, et souvent, j'ai l'impression que ce déni, en fait, pour le futur, le changement climatique, parfois je l'associe aussi au déni de notre propre mort.
Ah bah c'est clair. Mm-hmm. Ah bah c'est clair, ouais, ouais.
Il y a clairement un côté de ça, parce que c'est, soyons honnêtes, hein, c'est pas facile de se dire ah bah faut changer radicalement son mode de vie. Voilà, quelle que soit la position qu'on est maintenant, tu vois, moi j'en suis convaincu, j'ai pas de soucis avec ça, mais c'est un gros changement, et comme tous les gros changements, ça fait peur. Mais il y a pas que ça, il y a pas que un truc comme la peur de la mort que t'as dit, il y a aussi tout le patronat, l'État, qui diffuse en continu des messages contradictoires qui nous incitent à rester dans ce déni.
Oui, parce qu'une des stratégies utilisées, effectivement, c'est rendre les individus de plus en plus seuls pour casser les codes.
Ah bah isoler pour mieux.
Au maximum. Et puis l'utilisation de la peur, on a parlé de la pandémie. Et en situation de forte crise, vous êtes convaincu que les humaines pensent à l'organisation. Il y a toujours cette idée, on parle de violence, on parle de guerre du climat, enfin, on maintient un fantasme de chaos.
Mais l'organisation, elle se fait en fait ultra naturellement. Moi je vois, au début de 2020, j'étais au Chili. Je pense à cette expérience-là, 2019, donc il y a eu les studies chaux-sociales au Chili, qui est justement la révolte populaire qui a eu là-bas, très très forte, contre la Constitution, en tout cas qui a amené à se positionner contre la Constitution de Pinochet. Et en étant dans une forme où là-bas c'était assez... Voilà, effectivement, on était dans une forme d'urgence, en fait, que ça soit social, que ça soit sanitaire, que ça soit plein de choses. En fait, les gens, systématiquement, d'eux-mêmes, se sont retrouvés dans les quartiers pour s'organiser... Et en fait, créer des assemblées d'organisation. C'est vraiment quelque chose qui est inné, en fait, quelque part. Parce qu'en fait, l'humain étant un être social, il a besoin d'une organisation pour pouvoir vivre en société. Et effectivement, moi, je pense que là, vu l'urgence climatique, vu l'urgence de tout ça, il est plus que primordial, en fait, effectivement, que l'organisation soit mise au devant, en fait, de tout ça. Donc, c'est d'où peut-être le lien aussi qu'on fait. Alors forcément, en tant qu'anarchiste, on voit l'écologie, on voit ça d'une certaine manière, et on voit le changement climatique d'une certaine manière. Mais l'organisation libertaire, en fait, pour moi, est totalement en adéquation, en fait, avec ça. Et voilà.
c'est bien que tu précises ça, parce que l'anarchie, c'est pas contre l'organisation.
Au contraire, justement.
Non, mais c'est bien de le souligner.
C'est l'ordre, moins le pouvoir.
Voilà, c'est contre les pouvoirs, en fait.
Ouais.
Et pour ajouter deux petits exemples sur, pour en fait essayer de défaire ce truc qu'il y a dans l'imaginaire collectif, que en cas de catastrophe, voilà, d'urgence, l'être humain, c'est l'homme est un loup pour l'homme, tout ça. Dans tout un tas d'œuvres de fiction, des scénarios catastrophes, tout de suite, c'est The Walking Dead, machin, on peut faire confiance à personne. Or, en fait, ce qu'on a constaté de nombreuses fois dans des cas concrets, alors là, j'ai deux exemples aux États-Unis qui me viennent, un plus récent que l'autre. Un, là-bas, pendant la pandémie, à New York, par exemple, il y avait, pourtant, c'est pas une anarchiste, Alexandria Ocasio-Cortez qui a diffusé des espèces de tutos, comment ça marche l'entraide, en fait, pour s'entraider dans les quartiers pendant que t'es confiné. Et un peu plus loin dans le temps, toujours aux États-Unis, quand il y avait eu donc un des nombreux exemples de catastrophes avec des ouragans, je crois que c'était Katrina à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Ah ouais. Ce que donc on voit la dichotomie entre la réalité et ce que montrent les médias. Je sais pas si vous en souvenez, les médias ils montraient scènes de pillage, machin,
dans les maisons vides.
Voilà, en fait c'était des images tronquées et c'était que une infime partie de ce qui se passait vraiment et ce qui est sorti plus tard après dans les médias, dans certains médias, c'était que la majorité de ce qui s'est passé, spontanément, les habitants et habitantes se sont entraidés, il n'y a pas eu de violence particulièrement. Voilà, donc je pense, je suis d'accord avec ta conclusion, Akalai, il y a un côté inné en fait qu'on a oublié dans nos sociétés individualisées.
Il y a plein d'exemples comme ça, il y a plein d'exemples qui en fait, même sans penser que ça va être que les personnes ont une idéologie anarchiste à la base, on arrive à ça. 2001, la crise économique en Argentine, la récupération des usines, ce genre de choses, sans patron, avec un système horizontal autogéré. Enfin voilà, en fait. C'est vachement plus inné qu'on ne le croit, en fait, de fonctionner comme ça.
C'est vrai qu'un des premiers gestes de désobéissance civile, ce serait d'éteindre sa télé, clairement. Et c'est quoi pour vous la désobéissance civile ?
Oula ! Il y a plein de choses à faire.
Alors je ne connais pas une définition, on va dire, bien validée du truc, mais c'est n'importe quel type d'action. Qui vise, donc on estime qu'il y a une forme d'injustice, qu'il y a un intérêt éthique ou moral à ne pas aller dans le sens de certaines règles. Et du coup, parce qu'il y a un intérêt commun, quelque chose comme ça, qui justifie de pas respecter une règle donnée, hein, que ce soit une loi en France ou je sais pas quoi.
En fait, c'est mettre en pratique son esprit critique. Je pense. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, là, en fait, ça me paraît absurde. Là, c'est complètement aberrant et absurde. Non. Point. Non.
Ouais. Et juste pour émettre un bémol, ça, c'est plus dans le terme utilisé, parce qu'il y a plein de personnes qui font des trucs super chouettes et qui le revendiquent comme de la désobéissance civile. C'est juste sur le mot civil, en fait. C'est parce que ça rapporte à citoyen, citoyenne. Et du coup, en fait, nous, on est dans une lecture de la société lutte des classes. Donc, en fait, tu vois, la désobéissance civile, ça pourrait être un petit patron, tu vois, qui participe à une action de
désobéissance.
Qui refuse
de payer les impôts.
Voilà. Et en fait, c'est pas la même chose.
Non, non.
Du coup, plus désobéissance de classe.
Désobéissance de classe.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais, hein. Et est-ce que les gilets jaunes ont fait partie de la désobéissance de classe ?
Un avant-propos, c'était un mouvement tellement protéiforme que on peut pas dire une vérité générale.
Puis long, en fait, entre les pré-gilets jaunes, les post-gilets jaunes,
les proto, ce que j'allais dire.
mais clairement, il y a eu à des endroits et par des groupes de gilets jaunes de l'action complètement désobéissance civile et spontanément qui sont arrivés à des modes d'organisation qui sont anarchistes, qui sont autogestionnaires. Juste une petite anecdote, je me rappelle, j'étais allé à une des assemblées qu'avaient fait les gilets jaunes pour se regrouper à l'échelle nationale. Et j'avais été, donc c'était encore relativement, c'était la deuxième, je crois, la deuxième assemblée des assemblées, donc c'était relativement le début du mouvement. Et j'étais impressionné par le mode d'organisation qui était, si ce n'est complètement quasi anarchiste, et que des personnes aussi diverses soit arrivé à ce mode de fonctionnement aussi vite, une politisation hyper
c'est
rapide.
Inné.
Voilà, moi je trouve que c'est un argument qui va dans ce sens-là.
On se fait une petite respiration musicale, comme on dit sur les radios.
Ouais, moi je propose justement, vu qu'on est en train de parler de mouvements sociaux, il y a un morceau de Sarah Ebe que j'aime beaucoup. Sarah Ebe, j'adore Sarah Ebe, qui s'appelle Movimiento Social El Deseo, et qui parle justement de la révolution qui vient vers le bas et du combien antifasciste.
Est-ce que j'adore ? T'aimes bien aussi parce que c'est du combien antifasciste.
Mais complètement. Mais j'adore Sarah Ebe, alors forcément, voilà.
Argentine, hein, je crois.
Complètement. Ouais, cumbia Michela, donc c'est la cumbia qui vient des bidonvilles d'Argentine.
Voilà. Ah, il y a plusieurs types
Ouais, attention, c'est comme le rock, il y a toute une branche et tout.
Ah d'accord, il y a des sous-genres.
Complètement.
D'accord, c'est
complètement
toute une culture. Il faudrait faire un podcast entier sur la cumbia, je suppose.
Quand tu veux.
Là ou le cumbia d'ailleurs.
La cumbia.
Bon ben, on s'écoute Movimiento Social El Deseo.
Tout à fait, le désir.
Un peu de désir.
Armar algo para quemar, hacerte un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que fíjate bien que quieres quemar.
Voilà, Sarah et B. Nous avons donc samedi 10 septembre une projection et discussion sur les escadrons de la mort, l'école française de Marie-Monique Robin.
Alors, là, on va faire la diffusion, c'est un peu dans le cadre du Ciné-Club de Libertad, et donc il y a la diffusion du film, mais il y a aussi un bouquin. En fait, c'est un reportage journalistique, en fait, c'est un peu le rapport de tout ça qu'il y a dedans. Donc ça c'est le samedi soir, le 10 septembre. Alors c'est pas anodin de pourquoi cette date, parce que le lendemain, le 11 septembre, c'est la date malheureusement anniversaire, non pas que des Twin Towers, mais avant, en 73, du coup d'état de Pinochet en fait au Chili. Et donc ce film alors ne parle pas directement de ça, mais parle en fait, comme on sera à la veille de tout ça, de comment les stratégies de guerre ont changé, en tout cas, et comment les militaires français en fait de l'OAS, qui ont fait l'Indochine et ensuite l'Algérie, ont été envoyés en Amérique latine pour instruire les futurs dictateurs latino-américains. donc sur les méthodes de torture, sur les méthodes de plein de choses. Et donc on va parler un peu autour de tout ça. Les latino-américains, puis la CIA d'ailleurs.
Parce que toi, c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement.
Ah, ça, c'est peu dire. C'est peu dire. Ouais, ouais, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là dans ma vie. Alors, pas sur ce sujet des militaires, si bien entendu, si, sur les militaires français et tout. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les dictatures du cône sud de l'Amérique latine, dans ce qu'on appelle l'opération Condor. Voilà, qui sont les dictatures qui ont été mises en place dans les années 70. Entre autres par le biais des États-Unis et des autres pays occidentaux, de façon à pouvoir... j'ai pas les mots en français, ça me vient en espagnol forcément. Annihiler tout ce qui est gouvernement de type de gauche, ouais. Que ça soit communiste, socialiste, anarchiste, etc. Et donc voilà. Et donc la plus connue en France, c'est la dictature de Pinochet, mais il y en a d'autres aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Argentine avec la junte militaire qui a été... dont le chef au début a été le général Jorge Videla, mais c'est une junte militaire qui comprend tous les différents corps de l'armée, ça a changé. Dictature qui a eu lieu de 1976 à 1983 en Argentine et 73-90 au Chili. Bon, je vais pas parler de toutes les dictatures, mais il y en a un sacré paquet.
Et il y a toujours une volonté du néolibéralisme d'avoir la main mise sur des pays.
Ah bah le truc, c'est qu'en fait, le néolibéralisme, il a été mis en place au Chili, en fait, pendant la dictature. C'est le laboratoire du néolibéralisme de naissance, avec les économistes qu'on appelle les Chicago Boys. Donc, c'est les économistes qui sont partis étudier à Chicago, qui ont été envoyés par Pinochet en collaboration avec les États-Unis pour mettre en place le néolibéralisme ensuite au Chili. C'est parti de là, en fait. Donc effectivement, il y a tout ça. Donc là, par exemple, les Chiliens, il y a eu un vote, un référendum qui a été fait le 4 septembre sur la constitution, pour une nouvelle constitution, parce que la constitution qui est là jusqu'à présent est une constitution pinochetiste. Les résultats du vote, ça a été non pour l'instant. Voilà. On pourra en parler peut-être sur une autre émission, pas là-dessus, mais on pourra en parler pendant longtemps aussi. Et effectivement, tu faisais référence au morceau d'Anatijou, dont voilà, on a mis sur la playlist aussi. C'est clairement pour nous important, je pense, en tant qu'anarchiste, de parler de ça, pour nos positions antifascistes, clairement, parce que s'il y a bien quelque chose qui va à l'inverse de l'anarchie, c'est bien ce qui s'est passé là-bas, en tout cas. Et le système de guerre actuel... Ça nous fait en fait enchaîner là-dessus, c'est que ce mode de guerre anti-subversive est clairement un mode en fait encore utilisé par les forces répressives, pas spécialement militaires, mais ça peut être aussi policière en fait, dans le monde entier. Donc c'est vraiment un modèle, le modèle du général Trinquier, qui est mis en place pour voilà, démanteler les réseaux, par exemple. Ça peut être des réseaux anarchistes, mais ça peut être plein d'autres choses, ça peut être n'importe quel mouvement social qui existe en fait.
Et créer du mensonge aussi.
Et complètement.
À partir du moment où on arrête les gens, il faut un roman aussi national qui permet de justifier les arrestations.
La disparition, c'est justement le système qui est mis en place en Amérique latine, qui a été mis en place aussi en Algérie. La disparition, c'est... Le principe de la disparition, c'est qu'on n'a plus de corps. Donc s'il n'y a pas de corps, on ne sait pas. Donc on nie totalement en fait, l'identité de la personne et le fait que la personne aurait pu exister. Et la disparition, elle est très compliquée à gérer, autant pour les familles comme pour la société, comme n'importe qui. C'est le général Videla qui disait en Argentine, un disparu, mais quel disparu? Vous en voyez, vous, des disparus? Voilà, c'est quand même bien le... Voilà.
Quel cynisme.
Ouais, bonjour le cynisme. En France, c'est vraiment des modèles d'occupation, en fait, où les forces de l'ordre sont visibles, pour le coup.
Complètement. Après, bien entendu, on expérimente des choses ailleurs pour prendre le bon et le garder chez nous. C'est de la colonisation, purement et simplement. Hein.
C'est ça, ouais. C'est l'expérimentation des méthodes de maintien, avec des guillemets, de l'ordre, qui sont depuis vachement longtemps, en tout cas par l'Empire français, expérimentées dans les colonies, et puis ensuite, comme disait Calaï, rapportées en métropole, et du coup d'abord dans les banlieues, et puis ça finit, les gilets jaunes par exemple, donc c'était en majorité... une frange de la population qui ne vivait pas dans les banlieues ou dans les colonies françaises, du coup, qui ne connaissait pas ces formes de répression et qui les ont découvertes à cette occasion.
Oui, parce que c'est ça aussi la petite bulle, la petite... la petite bulle confortable en fait de l'Occident, c'est qu'on s'aperçoit pas en fait de tout ça directement. Clairement, en fait, là, effectivement, avec la répression policière, on l'a senti beaucoup plus fort. Alors, il y a les gilets jaunes, il y a tout ce qui est retraite aussi avant, il y a tout ce qui est zadiste, voilà. Mais on était quand même avant les gilets jaunes dans des trucs un peu particuliers, quoi. Enfin, je veux dire, la répression contre les ZAD, en fait, c'était quand même un petit enclos de la population et les médias arrivaient encore à manipuler. Quand on voit la répression policière qu'il y a au niveau, par exemple, des personnes qui deviennent borgnes à cause des flashballs et tout, dans les gilets jaunes, bah, moi, clairement, moi, ça me rappelle ce qui se passe au Chili, quoi. Au Chili, il y a je sais plus combien de personnes qui ont perdu les yeux, ou ce qui s'est passé en Colombie, ou ce qui s'est passé ailleurs. Enfin, clairement, pour vraiment travailler là-dessus, j'ai vraiment ce souvenir de... Alors, avant les gilets jaunes, je pense plus à tout ce qui est retraite, vous êtes, de m'apercevoir de... Ah, dis donc, le sujet de travail que je suis en train de faire des années 70, je suis en train de le retrouver là en ce moment dans ma réalité actuelle. Et c'est bien la preuve que alors, il y a d'autres documentaires hein, qui parlent de ça, mais qu'en fait, ce système de guerre, en tout cas, parce que c'est un système de guerre dans la pensée des policiers, le système policier et des militaires, existe et est en application aujourd'hui dans des démocraties. On voit pas les guillemets, mais je les fais sentir. Et il est en place, en fait. Et je dis bien guerre parce que c'est exactement ça. Tous les mécanismes qui vont derrière, c'est l'ennemi. Donc, on va combattre un ennemi qui est l'ennemi qui est d'ailleurs son proche, hein, clairement. Hein. Ou voilà, la personne qui est à côté de moi, c'est vraiment...
On n'est pas du même camp.
Ouais, c'est ça. C'est pas une guerre, en fait, contre un ennemi étranger venant d'un pays étranger, entre guillemets. C'est vraiment... Et c'est ça intéressant, je dis ça parce que c'est vraiment un autre système de pensée par rapport au système de modèle de guerre de Clausewitz qu'on a eu avant, par exemple. Voilà.
Et les régimes autoritaires d'aujourd'hui, on pourrait faire un lien avec l'écologie, on peut parler des pétromonarchies.
Ouais. Bah, en fait, alors de la documentation propre à tout ça, moi là directement j'en ai pas, mais j'ai envie de te répondre spontanément que de toute façon il y a le mot monarchie dedans et dans tous les cas il y a quand même un système de répartition en fait qui est juste pas égal en fait et qui est juste pas horizontal, donc dans tous les cas je le combattrais de la même manière en fait, si tu veux. Moi je fais pas de distinction entre en fait, cette dictature elle est plus ou moins bien par rapport à une autre ou non, en fait pour moi c'est la même merde si je peux m'exprimer ainsi, quoi.
Après, moi, j'ai pas non plus, je connais pas très bien, on va dire la géopolitique du Moyen-Orient. Donc, j'aurais pas une analyse pertinente à fournir.
Après, de la même manière, j'ai envie de te dire qu'en Amérique latine, tout ce qui est au niveau du croissant fertile, tout ce qui est à la chute de l'Empire ottoman, en fait, ça a quand même été récupéré par les Français, par les Britanniques, par tout ça. Il y a eu des tutorats, entre guillemets, qui étaient en fait des colonies déguisées par rapport à tout ce qui est gaz et pétrole également. Donc en fait, dans tous les cas, les Occidentaux, ils ont quand même foutu leurs pattes là-dedans. Et dans tous les cas, il y a toujours la même... En fait, c'est toujours un peu la même chose. Que ça soit dans le Moyen-Orient ou ailleurs, en Amérique latine. D'ailleurs, de toute façon, dans les pays de l'OPEP, dans un des premiers pays en faisant partie de l'OPEP, c'est le Venezuela aussi. Donc voilà, et le Venezuela, concrètement, malheureusement, comme pour les pays du Moyen-Orient... c'est pas une région qui risque de vivre tranquille avant encore un sacré bout de temps. Si on va sur un système comme ça, là, c'est vraiment...
Donc on parlait de conflit, celui qui est à nos portes, c'est bien l'Ukraine.
Ouais.
Je voulais connaître un peu votre sentiment en tant qu'anarchiste.
Un conflit qui n'est pas nouveau, hein, sur part de Makhnov et tout ça, entre la Russie et l'Ukraine.
C'est... clairement un gros sujet de débat parmi le mouvement anarchiste. Hein. Donc, juste pour donner un exemple, le groupe Libertad en fait partie de la fédération anarchiste, francophone du coup, qui elle-même fait partie de l'internationale des fédérations anarchistes. Et au sein de l'internationale, voilà, les camarades secrétaires aux relations internationales nous disent c'est la... Ouais, depuis le début de cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine, là, l'essentiel des discussions tourne autour de ça. En tant qu'anarchiste, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait pas faire. Donc, pour simplifier, il y a deux approches de base. C'est il faut participer, soit d'une manière ou d'une autre, aller sur le terrain, envoyer du matériel, que ce soit de soins, machin, voire éventuellement envoyer du matériel offensif ou défensif. Voilà, participer de tout un tas de manières, parce que le Poutine et le régime en Russie est de plus en plus fascisé, et donc même si on n'aime pas le régime en Ukraine, même si on n'aime pas Zelensky, même s'il y a beaucoup de nationalistes et de néo-nazis en Ukraine, ben y a quand même des camarades en Ukraine, faut les aider, et c'est pire côté Poutine. Et puis voilà, ça c'est pour un des deux camps de base, voilà, de manière très simplifiée. Et puis de l'autre, bah c'est non mais en fait faut pas, alors il faut aider de l'aide humanitaire, voilà, tout ça, mais participer au conflit d'une manière ou d'une autre, bah c'est un peu le légitimer, et c'est pas en allant se battre sur le front que, enfin voilà, peu importe quel côté qui gagne, ça va pas être une société anarchiste à la fin de cette guerre, tout de suite, malheureusement, je pense.
Oui, oui, non, mais oui, ça c'est évident. C'est évident, et c'est. Moi, j'ai beaucoup de mal à me positionner là-dessus. Hein. C'est très compliqué. Pour plein de raisons. Et. J'ai juste envie de dire que. Alors, guerre en Ukraine ou guerre ailleurs, en fait, il y a quand même. Quelque chose qui, moi. Sans parler directement d'être sur place ou pas, qui me terrifie dans la société dans laquelle je vis, qui est qu'on donne une importance, en tout cas, et tant mieux, hein, j'ai envie de dire, hein, aux personnes qui arrivent d'Ukraine, et c'est très bien, mais en même temps, ça montre aussi, encore une fois, un déséquilibre dans tout ça, en fait. Je connais des personnes qui travaillent dans le social et qui me disent que, justement, qui ont beaucoup de mal à voir, en fait, tous les immigrants, mais l'immigration, en fait, en fait, ça me fait penser à ça, parce que forcément, ça me renvoie à ça, c'est que dans tous les cas, les guerres apportent des migrations, l'écologie apporte des migrations, et en fait, n'importe quelle migration, en fait, il faut s'ouvrir à ça, en fait, et pas la nier, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Et ce déséquilibre, pour moi, est ultra affolant, tant mieux pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, mais en même temps, ça devrait nous faire réfléchir aussi aux autres qui arrivent, parce qu'en fait, c'est pas fini.
Qu'il y a comme une différence,
ah
c'est
ouais,
ça,
complètement.
C'est ça que tu veux dire,
ah mais
entre
complètement.
L'immigration complètement. Blanche, par exemple.
Ouais, complètement, complètement, c'est quoi. Ultra flippant.
C'est juste un exemple pour illustrer cette différence de traitement. Je sais pas si vous aviez vu l'extrait, c'était Robert Ménard qui était sur je sais pas quelle télé de merde. Avec voilà l'afflux des premiers exilés d'Ukraine, et du coup tout un tas de pays, y compris la France, étaient là, ah oui, il faut les accueillir, les pauvres. Ça a fait dire à Robert Ménard en plateau, au moins on peut lui donner, il a eu cette cohérence là, ah ouais, nous les fachos, les gens d'extrême droite,
nous les fachos,
il a pas dit comme ça, mais c'est ça, il disait un nous on collectif, on a merdé, on a eu tort de rejeter les migrants comme ça aussi fort, voilà, pour dire à quel point il y a une différence de traitement. Ça l'a forcé au moins un facho, Robert Ménard, à dire ah oui, il y a une grosse référence de traitement, zut.
Oui, il y a même des catégories, des sous-catégories, en fait, dans les pauvres et l'immigration, entre l'immigration subsaharienne et puis l'immigration occidentale, européenne.
Même, tu sais, il y a des différences de mots, en fait, carrément, en fait, c'est logique. Mais j'en reviens là-dessus, parce que je fais encore le lien entre la guerre et l'écologie, parce qu'en fait, ça aussi, quoi. Enfin, je veux dire, il faut qu'on... En fait, le problème écologique va faire qu'en fait les gens vont migrer. En fait, clairement, quoi.
Et ça a déjà commencé, en plus.
Ouais,
là,
complètement.
Nous, tu sais, tu parlais de bulles tout à l'heure, je sais plus. Mais voilà, on se rend pas compte, parce que pour l'instant, effectivement, on a des supermarchés.
C'est ça.
On a encore un peu de pétrole à mettre dans nos voitures. Mais la guerre, elle a déjà commencé. Il y a plein de pays qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique. Donc oui, la guerre a déjà commencé, quoi. Et c'est un privilège de ne pas s'en rendre compte, déjà, quoi.
Bah ouais. Et puis, quand même, on s'en rend compte, ce qui est très compliqué, moi, je trouve, si on n'a pas un esprit critique radical, c'est on va entendre des gens qui vont dire « Bon, alors, en fait, on arrête la consommation de papier et on privilégie la consommation numérique. » Mais la pollution numérique, elle est énorme aussi, en fait. Et ça, personne n'en parle, en fait. Personne n'en parle, et c'est terrible. Et... Et voilà, donc il y a vraiment tout un système à revoir, à reprendre de A à Z, en fait, et pas uniquement ce qu'on veut bien nous accorder, en fait, par les médias, bien entendu, mais ça coule de source, hein. Des mainstream, etc., quoi.
Ouais, c'est ce que dit le bouquin sur le greenwashing. Voilà,
je reviens là-dessus. Hop là, j'aime bien revenir sur les trucs d'avant.
Pour terminer ce week-end, dimanche, de 14 à 18h, très précisément, attention. Hein.
Ouais.
À 14h, ça commence. Il y a une discussion autour de la domination adulte.
Alors, juste précision, ouais. 14h, 18h, donc c'est le créneau de la permanence de
c'est
là-bas.
Ça. Ah, c'est à l'intérieur, d'accord.
Okay. Anarcha féministe. Et on ne l'avait pas marqué encore sur le programme, mais du coup, la partie discussion sur la domination adulte ou l'autre versant, l'oppression des mineurs, ça commencera à 15h30.
D'accord.
Voilà. Ça se fait, en fait, à ce moment-là, on a... La BAF voilà, accepte bien que ça se fasse en même temps, et ça, en fait, en même temps, on a l'impression que c'est pas plus mal aussi, et que ça va dans les intérêts, que voilà, cette discussion sur la domination adulte donc se fasse à cet endroit-là et à ce moment-là aussi.
Du coup, ce sera animé, entre guillemets. La forme, ça va être une introduction un peu courte par deux camarades du groupe Libertad. Et ensuite, ça va prendre la forme d'une discussion, échange, pour partager que ce soit les expériences, des références, des bouquins, des lectures.
Des films, voilà.
Voilà.
C'est pendant le goûter, en plus.
C'est ça.
Ça tombe bien.
Hein, bah ouais, on avait envie de faire un goûter, c'est quand même vachement cool. Je pense que les booms et les goûters, c'est quelque chose qui est complètement oublié.
Faut militer pour le retour de la boum et du goûter.
Et des paillettes biodégradables.
Ah, qu'est-ce que c'est, la domination adulte?
Du coup, c'est en fait tout ce qui est... enfin, il y a plein de choses dans la... Donc c'est la domination des adultes sur les jeunes, et notamment avec le statut de mineur, en fait. Donc il y a tout un tas d'oppressions, on va dire, spécifiques sur les jeunes, en plus de toutes les autres oppressions systémiques qu'on vit, le capitalisme, le patriarcat, le validisme, tout ça. Et donc il y a plein d'aspects à l'oppression des jeunes, et il y a notamment un aspect que les camarades ont envie d'évoquer, c'est ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Mmh. Et par ce qu'on entend par là, c'est en fait toutes les petites choses, enfin entre guillemets, prises individuellement chacune, c'est pas la mort, mais c'est tout ce que on fait aux enfants, du coup, qu'on ferait pas aux adultes.
Qu'on leur fait faire, ouais.
Voilà.
Par exemple, va faire la bise à telle personne, finis ton assiette, ce genre de trucs, quoi.
Bah, vous... ah, les petites humiliations.
T'imagines faire ça à un adulte? Non, tu finis ton assiette, sinon tu vas pas voir Netflix. Non, j'en sais rien, mais des conneries, mais voilà. C'est quand même une aberration, quoi.
Voilà, ouais. Et du coup, donc c'est cette domination adulte, c'est un enjeu de société, et aussi un enjeu écologique, parce que c'est le berceau de toutes les oppressions. C'est ce que, ben voilà, si tu commences à faire accepter dès l'enfance, ben voilà, que tu peux être opprimé, que quelqu'un qui n'a pas le statut de mineur, donc un adulte, peut te forcer à faire des trucs, et ben ça rend d'autant plus facile après à accepter d'autres formes d'oppression. Et du coup, la vie des camarades qui anime ça, c'est que c'est nécessaire de passer par là, arrêter l'oppression des enfants, des jeunes, parce que du coup, c'est les futures générations, et si on fait pas ça, bah, ça va être, si ce n'est impossible, extrêmement dur de sortir du capitalisme, du patriarcat.
Puis ça se reproduit, effectivement, c'est ça, en fait, il y a une forme de reproduction dans tous les cas qui se met en place, quoi. Si la violence est continue, elle continuera toujours, et voilà, en fait, on ne s'arrêtera pas, quoi.
On a tous et toutes été des enfants.
C'est ça. Bah voilà, c'est voilà, autant la domination adulte comme l'éducation, c'est la base, en fait, d'une société, quoi. Enfin, la domination adulte, non, c'est pas ça que je voulais dire, vous avez compris. Combat de la domination adulte.
c'est marrant, parce qu'en tant qu'adulte, on tend vers la déconstruction.
Ouais.
Et là, vous avez parlé de construction, pour le coup, avec les enfants, une éducation.
Bah, autant qu'ils se construisent bien et qu'ils aient pas trop déconstruire derrière aussi, quoi. Ça fait partie du système de l'idée de déconstruction, quoi, finalement.
C'est ça. Et du coup, bah, nous qui ne sommes plus des enfants, où on a vécu voilà, ces violences éducatives ordinaires et un tas d'autres choses, ça fait partie de, nos, de ce qu'on doit déconstruire. Parce qu'en fait, c'est déjà les repérer, se rendre compte qu'on fait ça, qu'on nie le consentement des enfants dans certaines actions. Donc voilà, nous, faire cette déconstruction. Et même si nous, individuellement, on n'a pas d'enfants, on est en contact avec des jeunes, en fait, dans la société. Et du coup, dans ces périodes où on est en contact aussi, si on ne s'est pas déconstruit, on risque de reproduire ces violences.
Oui, complètement.
Et vous pensez que c'est réellement figé, les étapes de transition entre l'enfance, l'adolescence, le monde adulte, ou c'est peut-être quelque chose aussi construit?
Pour moi, c'est quelque chose de construit, je pense. Parce que déjà, on n'a pas toutes et toutes la même évolution, en fait, tout simplement. Donc, je veux dire, il y a des personnes, des jeunes de 17 ans qui ne vont pas avoir la même maturité, par exemple, que certains qui en ont 12 ou certains qui en ont 21, quoi. Enfin, il y a vraiment des cases. Et il faut rentrer dans les cases,
ouais,
toujours.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et alors qu'en fait, c'est juste une évolution avec des étapes dans la vie. On va passer par certaines choses parce que forcément, on passe par certaines choses. Et ça, on ne va pas se le nier. Il y a quand même des étapes, en fait... qu'on va franchir, mais plus ou moins, en fait, rapidement. Et en fait, ça aussi, ça met, je trouve, les enfants en concurrence. Il y a beaucoup de parents qui vont dire « Ah ouais, moi, mon gamin, il a marché à temps de mois. En fait, le mien, il est marqué à temps. » Et il y a une sorte de concurrence. Alors qu'en fait, un enfant, déjà sur son développement de base, il ne développe pas. Soit il va développer, en fait, on va dire, tout ce qui est la partie de réflexive ou la partie, en fait, physique. Il ne va pas développer les deux en même temps. Donc déjà, rien que ça, dans les premiers mois, les mettre en concurrence, c'est déjà énorme. Et rien que ça, ça les fait rentrer, je trouve, dans un système où on est déjà tous et toutes en concurrence, en fait. Et un système ultra, ultra libéral, ultra, voilà, dans ouais. Toutes ces idées-là, quoi.
Du coup, c'est le lien, en fait, si, peut-être si les auditeurs, auditrices le voyaient pas immédiatement, c'est ça, le ouais. Lien avec l'anarchie, en fait.
Ouais, et puis la discipline, recevoir des ordres.
La hiérarchie, ouais, c'est ça, ouais. Mm.
C'est l'agisme.
Alors c'est pas tout à fait, c'est pas, c'est lié, mais c'est pas tout à fait la même chose, je pense, parce que il y a des trucs qui sont communs, genre l'agisme, soit t'es trop jeune, donc non, tu peux pas comprendre, ou t'es trop vieux, tu t'évolues pas sur certaines questions clivantes dans ton organisation politique.
C'est vécu, c'est du vécu. Ou...
c'est non, pas, c'est, je sais pas, on me regarde très fort à ce moment-là.
Non, c'est pour faire une blague, une exagération. Et donc c'était pour donner des exemples de voilà comment ça peut se traduire l'agisme. Et mais du coup la domination des adultes c'est pas juste parce que le jeune. La personne jeune est plus jeune, elle n'a pas
autant d'âge. C'est pas une question d'âge, quoi.
C'est vraiment une question de statut. Et c'est le regard qu'on porte sur... Voilà, vous aurez peut-être remarqué, j'essaie de ne pas utiliser le mot enfant. En fait, enfant, c'est une catégorie, c'est une case. Et si tu commences à parler de jeune personne, ça peut commencer à t'aider à faire évoluer le regard et comment tu traites la personne.
Ouais, encore une fois, les mots sont tellement importants. C'est là, encore la base de la façon de notre culture, de comment on voit les choses, quoi.
Non, c'est vrai, et puis c'est ces mêmes mots qui enferment dans des catégories. C'est aussi bien d'y réfléchir et de les détruire, c'est-à-dire que le monde des adultes, ce serait pas obligatoirement quelque chose de respectable, lié à la réussite.
Oui, en fait, pour peut-être un parallèle qu'on peut se faire dans la vie de tous les jours, ce serait exactement comme se dire qu'il y ait des élites qui savent des choses plus que d'autres, ouais, parce que c'est un peu ça, quoi. C'est le prof, il sait plus, ou le médecin, il sait plus, ou la médecin. Enfin, ça amène à des choses qui sont affolantes, en fait, sur des abus qui sont très, très forts, quoi.
Et le débat, c'est aussi du débat pour soi. Se dire, il faut être à l'éveil et se rendre compte de ça, de ces petites choses.
Ah, ouais.
Une forme des outils critiques. Donc des outils critiques, alors c'est par transition, on va...
Yeah.
c'est tout ce week-end au Chat Noir, vous nous redonnez un peu rapidement les éléments.
Ouais, du coup...
Comment se quitter, ouais.
Ouais, donc il y a déjà eu hier après-midi la permanence de la BAF, suivie d'une projection au pied du mur...
Hôtel Paso, voilà. Hôtel Les Paso, qui était donc un film sur la problématique frontière Mexique-États-Unis, et qui parlait justement d'une auberge, voilà, de comment ça se passe par rapport à tout ça. Avec projection de film, avec intervention derrière.
Ensuite, bon, aujourd'hui, petite pause. Et vendredi, grosse journée avec comme fil rouge l'écologie. Donc à 16h, la Técopole, des membres de la Técopole qui viennent nous parler du deuxième des trois rapports spéciaux du GIEC qui sont sortis ces derniers temps. Ensuite, à 17h...
Il y a la causerie populaire autour du deep greenwashing avec donc, les auteurs qui seront là, donc des échanges qui se feront. Et ensuite, l'UCL.
Voilà, l'UCL qui accueille Antoine Dubio pour son livre « Écofascisme » au pluriel, à 19h30.
C'est ça. Donc ça, c'est pour le vendredi. Et ensuite, on passe au samedi avec la projection du film « Escadron la mort, l'école française » de Marie-Monique Robin. Cette projection se fait à 18h30, c'est ça ? Je ne sais plus. Je devrais savoir, pourtant, la honte.
Moi, j'ai 18h30.
Ouais, ouais c'est ça, ça, 18h30, avec bien entendu, qui dit projection, dit débat derrière et discussion, en tout cas. Et on parlera de tout ça parce qu'on ne va pas projeter quelque chose sans en parler. Et ensuite, on passe au dimanche.
Voilà, dimanche, donc avec permanence à nouveau de la bibliothèque anarcha-féministe, 14h-18h, et à l'intérieur de ce créneau, à partir de 15h30, discussion collective autour des thèmes de la domination adulte, l'oppression des mineurs.
Et goûter.
Et goûter.
Et goûter, bien sûr.
Et tout ça dans une bonne ambiance.
Et peut-être paillettes biodégradables. Alors ça,
ouais, complètement.
C'est la surprise. Bon, mais en tout cas, merci d'être venu.
Avec
nous parler
plaisir.
Aussi du groupe
merci pour l'invitation,
Libertad, hein. avec plaisir. On se quitte sur un des titres que vous avez choisi.
Ouais, on va se quitter sur Get the Shot.
Voilà, la chanson Rotting Idols de Get the Shot.
Pour fermer comme on a ouvert.
Donc, juste brièvement, donc c'est dans un style musical très différent, c'est du hardcore.
Ouais.
Hardcore.
Groupe, et donc on n'a pas choisi n'importe quoi. C'est un groupe québécois qui affiche explicitement casquette avec un A cerclé, qui joue dans des concerts antifascistes. Et le refrain, je vous le dis parce que vous comprendrez peut-être pas, voilà, c'est un style particulier.
C'est du hardcore, quoi.
Le refrain, ça dit « No gods, no master, no saints, we're all bastards ». En français, pas de dieu, pas de maître, pas de saint, on est tous des bâtards.
Bon, rien
et des bâtardes.
Et des bâtardes.
Akala, Rob, merci. Et puis à bientôt, alors.
Ouais, ça marche. Salut.
Ciao, bye bye.